À l'écoute de RFI 20h, ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, dans la bande de Gaza, 31 personnes qui auraient été tuées par des tirs israéliens selon la défense civile.
Oui, les victimes à nouveau seraient des personnes qui allaient chercher de l'aide humanitaire. Avec notre correspondante Alice Moreno, on se penchera aussi sur cette opération menée en début de semaine par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, dans la ville de Naplouse.
Mais pendant ce temps-là, le ministre français des Affaires étrangères annonce que les 4 militants français qui sont encore retenus à Gaza, dont l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, eh bien, seront demain expulsés, demain et après-demain.
Oui, après leur arrestation sur un bateau d'aide humanitaire qui se rendait à Gaza, avec Charles Turien-Tomaca, on assistera à une nouvelle passe d'armes à l'Assemblée nationale entre des députés LFI et le gouvernement français. On s'intéressera aussi à la situation à Los Angeles, qui s'est réveillée ce matin dans un calme relatif. Après plusieurs nuits de heurts entre manifestants et policiers, la vie normale reprend son cours, nous dira Eike Schmidt. Ce sera le dossier de ce 20h. Et puis, Surfing USA, Good Vibrations, I Get Around. On a appris la mort de Brian Wilson, le génie des Beach Boys, avec 82 ans. Avec son groupe, il aura révolutionné la pop dans les années 60.
Et après ce grand journal du soir, on va évoquer les réponses des autorités françaises au lendemain du drame de Nogent. Dans l'est du pays, une surveillante tuée à coups de couteau devant un collège par un élève de 14 ans. Pourquoi les mesures mises en place jusqu'à maintenant ont-elles échoué? Quelle piste désormais? On appellera sur ces points nos collègues du Figaro qui s'apprêtent à consacrer leur une de demain jeudi à cet événement. À Gaza, la défense civile annonce 31 morts, 31 personnes tuées par des tirs israéliens.
L'armée israélienne aurait ouvert le feu à nouveau sur des personnes qui allaient chercher de l'aide humanitaire, tirant avec des drones et des chars. Bilan, 31 morts et 200 blessés. La nuit dernière, des milliers de Palestiniens avaient commencé à se rassembler pour attendre le centre de distribution de nourriture de la Fondation humanitaire de Gaza, fondation soutenue par les Américains. Parallèlement, Cisjordanie occupée, l'armée israélienne a mené en début de semaine une opération d'envergure dans la ville de Naplouse. Opération qui a débuté dans la nuit de lundi à mardi pour 24 heures, pendant lesquelles l'intégralité de la vieille ville a été bouclée. L'armée a procédé à des arrestations, parlant d'opérations antiterroristes, mais deux Palestiniens ont aussi été tués et des dizaines blessés. Alice Moreno.
Les services de secours n'ont cessé d'évacuer des blessés pendant le raid massif mené par l'armée israélienne. Le docteur Hamid Ahmad est directeur des services d'urgence rattachés au Croissant-Rouge palestinien à Naplouse.
Nous avons évacué une trentaine de blessés transférés vers des hôpitaux. Parmi eux, un blessé grave, un jeune homme de 17 ans blessé par balle à l'abdomen. Nous avons aussi traité 60 personnes asphyxiées au gaz lacrymogène, dont une fillette d'un an et demi.
Deux jeunes hommes palestiniens ont aussi été tués, c'est ce qu'indiquaient dès hier les autorités israéliennes. Selon des sources palestiniennes citées par le journal israélien Haaretz, une opération d'une telle ampleur à Naplouse n'avait pas eu lieu depuis la seconde intifada. Le docteur Ahmad partage ce constat.
Ce n'est pas la première opération que nous avons à Naplouse, mais cela faisait longtemps qu'on n'en avait pas connu une d'une si grande ampleur. Et là, l'opération a été menée de manière différente. C'était très dur. C'est la première fois que ça se passe comme ça à Naplouse.
Deux de ces ambulanciers ont aussi été blessés, dit-il, et un troisième a été retenu plusieurs heures par des soldats israéliens. Alice Moreno, à Ramallah, RFI.
Et pendant ce temps-là, en Israël, les 4 militants français qui sont encore retenus, seront expulsés demain et après-demain, donc jeudi et vendredi.
Oui, ils avaient été arrêtés sur un bateau d'aide humanitaire qui se rendait à Gaza. C'est le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui a annoncé leur retour, remerciant, je cite, « nos agents pour leur mobilisation admirable » qui a permis cette issue rapide. Depuis l'arraisonnement, Rima Hassan et plusieurs citoyens français et les filles reprochaient à l'exécutif son inaction. Et ce mercredi, à nouveau, encore une fois, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée a interpellé le gouvernement, Charles Turien-Tomaca.
Pourquoi protégez-vous Benjamin Netanyahou? C'est ainsi que Mathilde Panot a interpellé François Bayrou lors des questions au gouvernement dans l'hémicycle.
J'en appelle solennellement à Emmanuel Macron, nous voulons être reçus immédiatement pour faire en sorte que la France agisse à la hauteur du moment historique que nous sommes en train de vivre.
Le Premier ministre a répondu en dénonçant un jeu politique de la part de la France insoumise, François Bayrou.
Ces militants ont obtenu les faits qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter.
Peu de temps après, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé l'expulsion des 4 militants français jeudi et vendredi. Mais ça ne satisfait toujours pas le député LFI Éric Coquerel.
Quand ils seront là, ça sera une bonne nouvelle. Vous me permettrez d'avoir un peu de réserve parce que depuis maintenant 50 heures, chaque jour, on nous annonce qu'ils vont prendre l'avion. Et c'est pas ce qui se passe. Donc je reste méfiant. Surtout vu leurs conditions de détention qui, d'après nos informations, ne sont pas excellentes du tout. C'est même l'inverse. Et je me réjouirai quand ils seront là. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce stade, parce que je ne fais pas du tout confiance au gouvernement israélien.
Les Insoumis maintiennent la pression sur le gouvernement.
Charlotte Turien-Tomaca. Parallèlement, on apprend que l'eurodéputée insoumise Rima Hassan et le militant brésilien Thiago Avila, qui sont donc toujours en détention, ont été placés à l'isolement, information donnée par une ONG de défense des droits humains israélienne.
Vous êtes à l'écoute du grand journal du soir sur Radio France Internationale et il est 11h06 à Los Angeles, Christophe Paget. Los Angeles qui s'est réveillé ce matin dans un calme relatif après plusieurs nuits de heurts entre manifestants et policiers.
Oui, et ce mercredi sont prévus de nouveaux rassemblements de solidarité avec les immigrés ciblés par l'administration Trump. Mais la vie normale reprend petit à petit son cours. Heike Schmidt, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Heike Schmidt du service international de RFI. Alors Heike, la Cité des Anges a vécu sa nuit en fait la plus calme depuis une semaine.
Oui, c'est le résultat certainement du couvre-feu que la maire démocrate Karen Bass a décrété avec l'interdiction donc de sortir entre 20h du soir et 6h du matin. Mais la situation reste très tendue. Des hélicoptères ont survolé la ville toute la nuit. Des policiers à cheval patrouillent encore ce matin dans les rues et par peur de pillage, et bien de nombreux commerçants ont fait poser des panneaux de bois sur leurs vitrines. Ce couvre-feu doit rester en place plusieurs jours. Notons quand même qu'il ne s'applique pas à toute la ville, mais seulement à une zone d'environ 1 km² dans le centre. Car selon la maire Karen Bass, et bien les troubles ne concernent que quelques pâtés de maison.
Alors qu'en est-il avec eux des forces fédérales envoyées par le président Trump?
Et bien les 700 Marines sont encore cantonnés à 50 km au sud de Los Angeles, mais ils devraient être déployés aujourd'hui. Ces troupes d'élite doivent rejoindre les 4000 réservistes de la garde nationale déjà mobilisés. Au grand dam, vous le savez, du gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom dénonce un abus de pouvoir et une provocation inutile qui envenime une situation déjà explosive. Newsom prévient, Trump ne se limitera pas à son état.
Et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, n'est pas le seul à tirer à boulet rouge sur Donald Trump et sur sa décision de déployer la garde nationale fédérale et des militaires.
Exactement. Une alliance de 18 procureurs généraux vient de condamner ce déploiement comme étant illégal, antidémocratique et anticonstitutionnel car il n'a pas été autorisé par l'État californien. Au lieu de mobiliser l'armée contre le peuple américain, l'administration Trump devrait collaborer avec les autorités locales pour assurer la sécurité des citoyens, écrivent dans un communiqué les procureurs généraux de 18 États gouvernés par les démocrates.
Alors, quel est le coût de cette action controversée?
Eh bien, le Pentagone l'estime à 134 millions de dollars, mais les manifestations se propagent déjà à d'autres villes comme Chicago, New York, Atlanta ou encore Boston. Si Donald Trump décide donc de déployer là aussi des forces fédérales, eh bien, cela risque de coûter bien plus cher.
Merci Heike Schmidt.
On reste aux États-Unis pour évoquer cet accord commercial annoncé par Donald Trump, accord avec la Chine.
Oui, un accord trouvé à Londres après deux jours de discussion entre négociateurs américains et chinois. Un accord qui, selon Donald Trump, est encore soumis à son approbation et à celle du président chinois et qui devrait permettre la fourniture de terres rares aux États-Unis. Car les terres rares chinoises étaient un enjeu clé de ces négociations. Même si d'autres questions ont été abordées. Anne Verdaguet.
Les États-Unis souhaitent rétablir le rythme des expéditions de ces métaux stratégiques actuellement jugés trop bas par la Maison-Blanche. Du côté des taxes douanières vis-à-vis de la Chine, elles passent de 30 à 55%. Pékin, de son côté, taxera les produits américains à 10%, ce qui fait dire à Donald Trump que la relation entre les deux pays est excellente. En échange, il dit vouloir respecter sa part, notamment en permettant aux étudiants chinois de venir dans les universités américaines. Pékin attend aussi aussi que Washington reconsidère les contrôles aux exportations de certains produits américains, notamment technologiques, vers la Chine. Les conséquences de la guerre commerciale entre les deux pays sont déjà tangibles, avec une baisse de 12,7% des exportations chinoises vers les États-Unis le mois dernier. Il est pourtant possible de rééquilibrer les liens économiques entre Chine et États-Unis, a affirmé le secrétaire américain au Trésor. Donald Trump, lui, dit vouloir travailler étroitement avec le président Xi pour ouvrir la Chine au commerce américain. Ce sera une victoire pour nos deux pays, a-t-il ajouté sur son réseau Truth Social.
L'Ukraine récupère les corps de 1200 soldats rendus par la Russie.
Oui, 1212 soldats exactement tués sur le front, information donnée par Kiev, qui attend aussi pour demain un nouvel échange de militaires grièvement blessés. Parallèlement, selon les autorités, la nuit dernière, de nouvelles frappes de drones russes sur l'Ukraine ont fait 3 morts et une soixantaine de blessés à Kharkiv.
Et puis le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui condamne des violences, je cite, « insensées » en Irlande du Nord.
Oui, effectivement, Keir Starmer parlait des violences en Irlande du Nord par rapport qui ont duré 2 nuits, des violences pendant lesquelles 17 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Les 2 nuits d'émeute ont visé des immigrés après l'inculpation de 2 adolescents qui auraient tenté de violer une jeune fille. Des émeutes qui ont principalement eu lieu à Ballymena, situé 50 kilomètres au nord-ouest de Belfast.
Ah bah justement, on évoquait le Royaume-Uni, on va en prendre la direction à présent. Le gouvernement britannique vient de dévoiler ses orientations budgétaires.
Oui, alors renouveau national ou cure d'austérité, qui ne dit pas son nom, bonne question. Depuis leur arrivée au pouvoir il y a 1 an, les travaillistes se sont donné pour objectif de limiter la dette et de redresser les finances publiques. Mais les services publics britanniques manquent déjà cruellement de moyens et fonctionnent mal. Bilan de ces annonces avec Emeline Vin.
Parmi les gagnants de cette répartition budgétaire, il y a l'hôpital public, déjà, qui devrait recevoir une augmentation de 32 milliards d'euros par an pour les 3 prochaines années. C'est la hausse la plus importante qui s'explique par des coûts très élevés de fonctionnement et absolument nécessaires alors que, par exemple, 7 millions de Britanniques attendent des rendez-vous avec des spécialistes. Il y a l'énergie aussi. Pas une surprise, le gouvernement avait annoncé ce mardi des investissements colossaux dans le nucléaire. Et puis, la défense, Londres a promis d'y consacrer 2,6% de son PIB d'ici 2 ans, contre 2,1% actuellement. Alors, pour financer tous ces nouveaux investissements, il a fallu faire des concessions. Outre l'aide internationale, diminuée pour équilibrer les dépenses militaires, 2 ministères sortent perdants, l'éducation et surtout l'intérieur, qui subit des coupes effectives dans son budget et n'attire aucun nouvel investissement. La chancelière est tout de même restée floue sur les calculs, assure qu'elle continue de respecter ses règles fiscales de limitation de la dette, mais l'opposition l'accuse de cacher aux Britanniques la perspective de nouvelles hausses d'impôts à l'automne. Emeline Van Londres, RFI.
En Afrique du Sud, le bilan des inondations qui passe à 49 morts.
Oui, parmi les personnes décédées, 4 enfants qui se trouvaient dans un minibus scolaire qui a été emporté par les eaux. En Afrique du Sud, c'est l'hiver et de fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glacés qui ont touché plusieurs zones de la province du Cap-Oriental dans le sud-est. Ils ont provoqué des glissements de terrain et des centaines de familles ont dû quitter leur maison.
Et puis à Nice, le sommet de l'ONU pour les océans qui se poursuit et on y parle plastique puisque 95 pays viennent d'appeler à l'adoption d'un traité ambitieux qui limite la production de plastique.
Oui, la suite des négociations, ce sera en août à Genève, mais s'il est lancé aujourd'hui à Nice, ce n'est pas un hasard. 80% des déchets identifiés dans l'océan sont des déchets plastiques. Même les sites marins inscrits au patrimoine mondial ne sont pas épargnés. L'UNESCO vient donc d'annoncer un partenariat avec Plastique Odyssée, un collectif engagé pour réduire la pollution des océans. Il avait cofondé l'un des groupes phares des années 1960, les Beach Boys. Brian Wilson vient de mourir à l'âge de 82 ans et Edmond Sadaka, c'est un monument de la chanson qui disparaît.
Oui, véritable monument, prodige de la pop américaine qui a composé, on peut dire, la musique la plus heureuse du rock. Il fit de son groupe les Beach Boys, le groupe américain ayant vendu le plus de disques au monde. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il a fondé les Beach Boys avec ses 2 frères, un cousin et un ami, un groupe familial qui allait faire danser la planète entière avec ses tubes comme celui-ci que l'on entend, Good Vibration. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up. Au début des années 60, les Beach Boys ont popularisé la musique surf. C'est une musique caractérisée par une guitare électrique avec des effets de réverbération, une basse très rythmée, des chœurs également. En 1967, l'album Pet Sounds représente l'un des sommets de la carrière de Brian Wilson. D'ailleurs, le Beatles Paul McCartney estimait que cet album contient la plus belle chanson jamais écrite avec Good Only Knows. Par la suite, le musicien se connaîtra une période beaucoup plus sombre. Dès les années 70 et 80, il sombre dans la dépression et la drogue. Et il sortira un album solo en 1988, mais atteint de démence à la fin de sa vie. Il avait été placé sous tutelle en mai 2024.
Edmond Sadaka, et on écoutait évidemment Good Vibrations. On termine ce journal romain avec des nouvelles du T-Rex, qui est le dinosaure, vous le savez, le dinosaure préféré des enfants. Eh bien, un nouveau membre de sa famille a été découvert dans les tiroirs d'un institut en Mongolie. Les fossiles, figurez-vous, avaient été mal identifiés. Les scientifiques avaient, pendant 50 ans, pensé que ces dinosaures faisaient partie d'une autre famille. Eh bien, cette découverte a permis d'éclairer l'histoire de la famille des... Alors, c'est un petit peu compliqué à prononcer. Tyrannosauridae, la famille des Tyrannosaures Rex, qui en fait aurait migré de l'Asie vers l'Amérique du Nord, où ces rejetons ont fini par devenir, avec le T-Rex, les prédateurs suprêmes.
Alors j'allais dire que vous étiez fan des Beach Boys, mais je pense davantage des dinosaures en vous écoutant.
Bah, les Beach Boys, il faut bien dire qu'à l'époque, c'était pas des dinosaures. Aujourd'hui, ça l'était un peu devenu. Mais leur musique, par contre, n'a absolument pas vieilli comme on a pu l'écouter.
Et on la réécoutera évidemment sur RFI. Merci beaucoup Christophe Paget pour ce grand journal du soir, 20h16 ici à Paris.
RFI Soir. Romain Ozoui.
Et le programme des prochaines minutes, on va évoquer les réponses des autorités françaises après le drame de Nogent. C'était hier, une surveillante tuée à coups de couteau par un élève de 14 ans devant un collège. Pourquoi les mesures qui avaient été mises en place ont échoué? Quelle piste désormais? On appellera nos collègues du Figaro qui s'apprêtent à consacrer leur une de demain jeudi à cet événement. Et puis, également en France, le mois de juin est celui du handicap. Coup de projecteur à cette occasion sur une pièce qui est jouée au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, rien que ça, inspirée de l'élixir d'amour de Donizetti et qui met en scène cette pièce et bien des personnes en situation de handicap intellectuel. Notre reportage à suivre. Pour l'heure, voici les sports. Il est de retour de Roland Garros. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Romain, bonsoir tout le monde.
Allez, le foot à la une ce soir et les premières équipes arrivent aux États-Unis pour y disputer. Ce sera à partir de samedi, la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs.
32 équipes réparties dans 11 villes américaines vont y prendre part durant un mois à l'image du Paris Saint-Germain. Le tout frais champion d'Europe a atterri ce matin à Los Angeles. L'entraîneur Luis Enrique a emmené avec lui 24 joueurs, parmi lesquels Ousmane Dembélé, le meilleur buteur du club cette saison. Impatient de participer à cette compétition d'un nouveau genre, Ousmane Dembélé.
Je pense qu'elle va être exceptionnelle, cette Coupe du Monde. Et en plus, c'est aux États-Unis, voilà, un très beau pays. Juste avant la grande Coupe du Monde. Et ouais, non, on a hâte d'y être et je pense que ça va être top. Comme au début de saison, on se le dit, on va essayer de remporter tous les trophées. Après, on sait que c'est difficile, il y a des très belles équipes dans cette compétition-là. Mais voilà, on sait que le premier match, là, il va être décisif. Et voilà, on va essayer de tout donner pour remporter ce trophée.
Et le premier match du Paris Saint-Germain dans ce mondial des clubs, ce sera dimanche soir face à l'Atlético Madrid. Quant au match d'ouverture, il opposera samedi l'Inter Miami de Lionel Messi au club égyptien du Al Ahly du Caire.
Également en foot, pour la 23e fois consécutive, le Brésil va participer à la Coupe du Monde.
La sélection, qui n'a loupé aucune édition, s'est qualifiée pour la prochaine, prévue en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'était hier soir, l'équipe brésilienne victorieuse du Paraguay à Sao Paulo 1-0 grâce à un but de Vinicius Junior. Ceci à l'occasion de la 16e journée des éliminatoires sud-américaines. C'est le tout premier succès du nouvel entraîneur Aurí Verde, Carlo Ancelotti, après un nul la semaine dernière face à l'Équateur. L'ancien technicien du Real Madrid arrivé depuis seulement 2 semaines au Brésil, il savoure évidemment cette première mission accomplie. Carlo Ancelotti.
Nous avons un peu baissé d'intensité en deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, c'était un match complet et nous sommes très heureux de cette qualification. Bien sûr, nous savons que nous devons continuer à travailler. Nous avons un an pour le faire et il était très important de sceller la qualification lors de ces deux derniers matchs. Mes 15 premiers jours ont été magnifiques, à tout point de vue, magnifiques par l'accueil que m'a réservé le peuple brésilien. Aujourd'hui, au stade, ils m'ont offert de nombreux maillots. L'attitude des joueurs, la bonne entente entre eux, tout m'a plu. Tout ce qui manquait, c'était une victoire, et aujourd'hui, nous l'avons obtenue. Alors maintenant, nous allons de l'avant avec joie.
Faltava solo la victoria, lo hemos conseguido.
Le Brésil, troisième au classement des éliminatoires à 10 longueurs du leader, l'Argentine déjà qualifiée, est tenue en échec hier à domicile par la Colombie un but partout. L'Équateur a également décroché son billet pour le Mondial 2026 après son nul à Lima face au Pérou, 0 partout.
Le tennis, donc Roland-Garros s'est terminé, on est passé de l'ocre de la terre battue au vert.
Oui, le vert du gazon qui accueillera à partir du 30 juin à Londres Wimbledon, le troisième grand chelem de l'année. Plusieurs tournois de préparation sont en cours. Sans grande réussite pour les joueurs français, puisque trois d'entre eux ont été éliminés aujourd'hui à Stuttgart, quant à Alice Pierre-Hugerbert et Arthur Hinderknecht. Des défaites au deuxième tour. Hier, Gaël Monfils avait été sorti d'entrée et en trois manches par le jeune américain Alex Mikkelsen. Une qualification tricolore tout de même aujourd'hui, celle d'Adrian Manarino à Sertogenbosch aux Pays-Bas. Il a battu en deux manches le néo-zélandais Chris O'Connell. Premier tour passé également pour le Canadien d'origine guinéenne, Gabriel Diallo, dépend de l'Australien Jordan Thompson.
On termine avec le cyclisme, le critérium du Dauphiné.
Remco Evenepoel a frappé fort tout à l'heure lors de la quatrième étape disputée à Saint-Pelay, un contre-la-montre de 17 km que le Belge a remporté avec 21 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Plus d'une seconde au kilomètre, c'est beaucoup, pour ceux qui ne connaissent pas bien spécificité du cyclisme. Le Slovène Tadej Pogacar a terminé quatrième à 49 secondes du champion olympique et du monde de la spécialité Remco Evenepoel, qui en profite pour prendre le maillot jaune de l'épreuve.
Merci Eric Mamrout. Il est 20h20 ici à Paris. En France, l'émotion reste forte au lendemain de la mort d'une surveillante tuée à coups de couteau devant un collège de Nogent dans l'est de la France par un élève de 14 ans. Mais l'heure est également aux enseignements. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Comment éviter et bien que cela se renouvelle à l'avenir? Pour tenter de répondre à ces questions, le procureur de la République de Chaumont tenait en fin d'après-midi une conférence de presse. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Depuis la rédaction du Figaro, alors vous allez consacrer votre une de demain jeudi à cet événement. Vous avez suivi cette conférence de presse qui était évidemment très attendue. Qu'est-ce qui en est ressorti?
Bah écoutez, il en est ressorti que cet adolescent exprime ni regret ni compassion, nous dit le procureur, et que c'est un collégien de 14 ans qui a tué froidement cette surveillante de son collège et qu'il ne la visait pas particulièrement, enfin c'était pas elle, il lui en voulait pas particulièrement. Il avait été rabroué vendredi, a-t-il dit, alors qu'il était en train d'embrasser sa petite amie. Semble-t-il que ça a laissé des traces. En tous les cas, il s'est manifesté hier de façon très violente en assassinant un membre du corps éducatif de 7 coups de couteau contre cette surveillante, donc à Nogent, ce qui nourrit évidemment un sentiment de sidération dans tout le pays, et tout le monde s'interrogeait. Mais on en sait un peu plus aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les circonstances et qui viennent d'une certaine façon balayer toutes les propositions qui ont été faites depuis 24 heures pour essayer de contrer ce genre de violence des mineurs. C'est-à-dire que les portiques, en l'occurrence pour cet enfant, les portiques n'auraient eu aucune incidence à l'entrée de l'établissement. Pareil pour l'achat des couteaux, puisque les achats de couteaux sont normalement interdits aux mineurs, mais ce mineur s'est procuré ce couteau chez ses parents, donc probablement dans la cuisine. Donc tout le monde se tourne maintenant, et c'est ce qui fait plutôt l'unanimité du personnel politique, sur la santé mentale d'une partie de la jeunesse aujourd'hui en France. Et en tous les cas, c'est ce que nous dit notamment une députée qui vient de rendre un rapport fort intéressant sur la violence des mineurs et le fléau des armes blanches chez les mineurs, le rapport qui lui avait été commandé il y a quelques semaines.
Donc suite à ce drame, en tout cas, vous nous dites que évidemment les décisions des autorités ne sont pas adaptées pour éviter que cela puisse avoir lieu. Sur la santé mentale, c'est évidemment un sujet très important. Hier, plusieurs membres de la classe politique ont évoqué la santé mentale. Ça renvoie à d'autres sujets de santé mentale, a dit la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Mais le procureur de la République de Chaumont a dit aujourd'hui que l'adolescent en cause ne présente aucun signe évoquant un possible trouble mental.
Non, alors c'est ce qu'il dit, effectivement, mais ça, lui-même n'est pas psychologue, donc il peut pas juger. Je dirais qu'il y a quand même, depuis que le maniement du couteau s'est répandu là ces dernières semaines et ces derniers mois dans toutes les affaires qu'on a connues, il y a quand même un problème, parce qu'on s'aperçoit, et c'est ce que montre aussi l'enquête et toutes les statistiques, c'est qu'il y a une violence de plus en plus forte dans les faits divers concernant et mêlant des adolescents et mêlant des mineurs, et que ça va jusqu'au crime, jusqu'à l'assassinat, et qu'il faut évidemment essayer de trouver des causes à tout ça. Et donc il va falloir, c'est ce que dit Naïma Moutchou, mettre le paquet quand même sur l'accompagnement des mineurs dans leur adolescence, aussi qui renforcer sans doute les dispositifs qu'il y a dans les collèges et dans les établissements pour les encadrer. C'est ce qu'elle en tous les cas préconise.
Est-ce que le fait que 2025 soit une désignée grande cause nationale, la santé mentale soit désignée grande cause nationale, est un élément important ?
Ça met en tous les cas l'accent là-dessus, puisque effectivement, ça encourage tout le monde à faire des efforts dans ce domaine, et probablement que le gouvernement actuel, enfin François Bayrou, va insister. C'était la grande cause qui avait été lancée par Michel Barnier, son prédécesseur, sans qu'on assiste à tous ces faits divers absolument terribles. Et maintenant, c'est une ambition qui est portée par, en tous les cas, François Bayrou et l'ensemble du gouvernement, semble-t-il, y compris d'ailleurs, et c'est à noter, par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui dit aujourd'hui qu'il faut dépasser le tout sécuritaire, qu'il y a une part de désagrégation civilisationnelle profonde dans le pays.
Eh bien, merci Yves Tréhard. Donc, ce sera votre événement ce jeudi dans le Figaro. En France, toujours, le mois de juin est celui du handicap et plusieurs initiatives dans ce cadre-là ont lieu partout dans le pays pour changer le regard, pour donner la parole également. Et l'une des plus belles réalisations, sans doute, c'est le projet Unique qui, pendant un an, a réuni des éducateurs et des personnes en situation de handicap intellectuel, les a réunis autour de l'opéra L'Élixir d'amour de Donizetti, pièce qui sera proposée sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Laurence Théo a assisté à une répétition reportage.
De l'élixir d'amour, ces danseurs n'en ont pas besoin pour tomber amoureux.
L'élixir de l'amour.
Et c'est quoi l'amour ?
Cœur. L'amour chaleureux.
Ah, c'est le nom de son amoureux.
Tous habillés d'une veste de travail bleu et d'un pantalon noir, Alice, Mounir, Emma, Kevin, Yaya et les autres forment une ronde en se donnant la main et sont prêts pour la répétition.
Nous allons faire la danse et l'opéra.
Et les voilà qui s'avancent au centre de la ronde, puis s'en éloignent, sous la direction de Juliette Claire, danse-thérapeute.
On se regarde, on se sourit. Et on ferme pas les yeux, n'est-ce pas Alice ?
On se regarde, on se sourit. Oui, Yaya, super. T'es très convaincant.
Juliette Claire salue les progrès des 10 danseurs, déficients intellectuels et très impliqués.
Moi, je suis émue de voir, en fait, entre septembre et maintenant, l'évolution des uns et des autres. Il y a vraiment quelque chose de très fort, une vraie amitié, je pourrais l'appeler comme ça, même si on est dans des lieux de thérapie.
Cheveux longs jusqu'en bas du dos, Miona assiste Juliette Claire. Elle se réjouit de ce projet qui intègre les gens différents.
Ça donne de la visibilité, ça montre que la danse peut être pour tous et par tous.
Les danseurs aiment leur éducatrice et Christine aime sa petite troupe.
On est très vivant, on est beaucoup dans la joie aussi. Et voilà, et notre gaieté parfois est communicative et laisse des sourires sur les visages des gens et ça c'est pas mal.
Pour Christine Rousseau, cette collaboration avec le Théâtre des Champs-Élysées est réjouissante.
Moi, j'adore les faire venir dans des beaux lieux. Bon, là, hein, le Théâtre des Champs-Élysées, avouez que c'est pas vilain.
Cette restitution de l'élixir d'amour se termine avec le mariage de Nemorimo et d'Adina. Mounir est en costume et dans les cheveux d'Alice, une couronne de fleurs.
J'ai qu'amoureux et voilà.
Ça y est, vous êtes mariée ?
Je l'aime.
La concentration se lit sur ses sourcils froncés. Anissa a lancé des cris de joie pendant le mariage.
La musique de...
Et c'est sur cette célébration de l'amour et à regret que l'on quitte cette joyeuse équipe.
mes joyeuses équipes que l'on pourra donc retrouver au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. C'était Laurence Théo sur Radio France Internationale. Ne bougez surtout pas, la session soirée de l'info, elle se poursuit pendant encore 2 heures et à suivre la première édition d'Afrique Soir dans une minute sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
RFI, la sélection du mois.
Quand la pluie sonne,
Benjamin Biolay.
À mon carreau, adieu Paname, tu pleures trop.
Pierce Faccini et Balaké Sissoko.
What will you do when storm comes your way? Will you run to the high ground or battle the fray?
RFI Musique.